Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde autour de The Thing. On va se présenter rapidement. Donc, je suis Karim Sitaïev, je suis chercheur à l'Institut Thorax à Nantes. Je travaille plutôt sur le côté cellules souches.
Donc moi je me présente, je suis Nathalie Dubois et je suis enseignante en lettres, donc j'aime beaucoup la SF, je m'en sers pour enseigner mais aussi pour mon plaisir personnel.
Alors d'abord on va juste faire un petit tour de table,
de salle.
À savoir, qui a vu le film The Thing de Carpenter? Ok. Qui a vu le prequel qui a été fait plus tard, en 2011? Un peu moins de monde. Qui a vu la version de 1951, La chose d'un autre monde? Ok. Qui a lu la nouvelle de Campbell, Who Goes There? Et qui a lu la nouvelle de Watts, The Things? Ok. Donc on va, parce que comme on va revenir pas mal sur les différents supports, donc on appellera le film de Carpenter La chose, The Things de Carpenter, le prequel The Things 2011. Et puis le premier, celui de 51, et la nouvelle de Campbell, la nouvelle de Watts.
Oui, voilà. Et si vous avez envie de poser une question, de nous interrompre, bah, vous n'hésitez pas. Moi, je vais commencer par peut-être une petite présentation de chacune des choses. Donc, je vais le faire dans un ordre chronologique. Donc, l'origine de tout ça, justement, c'est la nouvelle de Campbell, qui a été publié dans la revue dont il est ensuite devenu l'éditeur. Et qui, donc ça c'est en 1938. Il a publié un recueil de nouvelles avec cette nouvelle qui s'appelait Who Goes There. Donc le recueil a été traduit de manière très étrange en français, parce que ça donnait Le ciel est mort, où on a vraiment le début de tout ça. En 2018, oui, ça d'ailleurs, on l'a pas mentionné là tout de suite, mais il y a Frozen Hell,
Il y a une campagne Kickstarter pour financer une nouvelle édition de The Things, Frozen Hell, qui utilise la version initiale de la nouvelle avec des notes qui ont été retrouvées de Campbell. Je crois qu'il y a 45 pages en plus rajoutées. J'ai pas lu la nouvelle version, mais apparemment c'est plutôt sur le début où il y a beaucoup plus de
détails, ouais. Voilà, donc ensuite il y a le film de 1951, The Thing from Another World. Donc là je vais un petit peu le présenter. Alors bon, on va dire que l'histoire c'est un peu toujours la même, hein. Ça se passe dans un univers glacial polaire, avec des personnages qui sont coincés là pour une mission scientifique, pas très claire d'ailleurs. Et dans la nouvelle de Campbell, ils vont trouver, à cause
un signal.
Oui, voilà, un signal sonore, c'est ça, je cherchais mes mots. Un vaisseau, d'abord, qu'ils identifient tout de suite comme étant extraterrestre. Et ils vont essayer de le dégager de la glace, sauf qu'en essayant de le dégager de la glace, ils vont le faire exploser. Et ils vont, un petit peu plus loin que ce vaisseau, trouver, toujours grâce à ce signal sonore, une bête qu'ils ne voient pas très bien au départ, qui ils découpent un énorme bloc de glace autour d'elle et ils la ramènent dans leur abri. Voilà. Donc la chose, hein, dans la nouvelle, en tout cas, est très clairement identifiée au départ comme une vie extraterrestre et comme quelque chose d'inconnu. Hein. Elle a une forme très précise dont on parlera plus tard. Donc ensuite, dans le film de 1951, alors ce qui est très différent, c'est que la chose... elle arrive soudainement sur Terre et c'est ça en fait qui va déclencher le fait d'aller la chercher.
Donc c'est pas
elle n'est pas enterrée depuis 20 millions d'années comme dans la nouvelle de Campbell. Elle tombe sur Terre deux jours avant. Voilà. Et, euh, et, aussi la dégager. Ils vont aussi la ramener.
Donc là, c'est en respectant un peu la nouvelle.
Voilà. Donc là, on respecte parfaitement la nouvelle. Le film de Carpenter, lui, il est quand même très, très différent, puisque c'est celui, sans doute, que vous connaissez, puisqu'il commence par l'arrivée de ce chien et du pilote d'hélicoptère norvégien, enfin, de l'hélicoptère norvégien. Et les Américains ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils détruisent l'hélicoptère norvégien. Ils ne détruisent pas le chien, qui est bien sûr porteur de la chose. Mais ça, ils le découvriront que bien plus tard. Et ensuite, il nous reste donc le film de 2011, qui est un préquel. Donc, c'est-à-dire que le film de 2011 s'arrête là où commence le film de Carpenter. Donc en fait, dans le film de 2011, on va avoir tout ce qui s'est passé avant dans la base norvégienne. Et ce qui s'est passé avant dans la base norvégienne, finalement, ça reprend beaucoup plus la nouvelle de Campbell, à savoir l'histoire de la découverte d'un vaisseau congelé depuis plusieurs millions d'années et d'une bête qui serait là aussi enfouie.
Qui est ramenée au camp pour...
Voilà, qui est ramenée au camp pour être examinée par les biologistes. Voilà, et puis nous reste bien sûr la nouvelle de Peter Watts, donc qui est très très différente, parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle décide de donner la parole à la chose. Donc c'est une narration en point de vue interne, avec la chose qui parle et qui donne un petit peu ses motivations. Ce qui est très intéressant, parce que finalement, dans tous les autres, toutes les autres manières de voir, en fait, on ne sait absolument pas ce que veut la chose. On voit juste ses actes qui sont plutôt horribles et qui sont du côté de la destruction, de la violence. Et voilà. Alors que là, justement, Peter Watts essaye de lui donner des motivations. Et alors, je ne peux pas dire une forme d'humanité, mais parce que c'est vraiment pas le cas. Mais en tout cas, il essaye de fournir un cadre à cette chose et de nous expliquer quelles pourraient être ses motivations. Donc, c'est assez différent. Voilà, c'est peut-être quelque chose que toi, tu voudrais rajouter.
Non. Bah, là, c'est une bonne introduction sur, au moins, comment la bête arrive dans chacun des lieux suivant les médias, que ce soit les différents films ou les nouvelles. L'aspect qu'on voulait un peu traiter, c'était plutôt le côté...
La chose, en fait, qu'est-ce que c'est et comment elle est donnée à voir dans ces différents, supports. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est que dans le préquel de 2011, comme dans la nouvelle... et comme aussi dans le film de 1951, il y a une forme originelle, même si c'est peut-être pas la forme originale. Hein, en tout cas, il y a une forme extraterrestre qui est donnée. Voilà.
Et les gars de la base sont conscients de l'origine extraterrestre, de ce qui leur arrive.
On était parti un petit peu de ça, en fait, donc sur l'aspect. Moi, je vais parler plus particulièrement de la nouvelle parce que, quand ils la ramènent au camp, au début, ils ramènent un bloc de glace, ils ne savent pas du tout ce qu'ils ramènent. Et puis, peu à peu, le dégel va dévoiler la bête qui ressemble assez à la couverture Frozen Hell que vous pouvez voir ici. Donc, elle est décrite comme ayant trois yeux rouges et des poils qui ressemblent un peu à des vers bleutés. Et voilà. Et ce qui ressort très vite, en tout cas dans le discours d'un des protagonistes de la nouvelle, c'est qu'elle est extrêmement effrayante. Et toute la base va très vite se trouver en proie à des cauchemars, y compris le personnage de Blair, hein, le scientifique, le biologiste qu'on va retrouver dans plusieurs nouvelles. Et ce personnage, en fait, il est très poussé par sa curiosité et à chaque fois c'est lui qui va introduire le personnage en fait dans la base en essayant de faire tomber toutes les peurs des autres vis-à-vis de ça.
Poussé aussi par la découverte scientifique, oui, d'une nouvelle entité extraterrestre,
tout à
d'une
fait.
Nouvelle réponse à des, ou de nouvelles questions à ce qui compose l'univers et nous ne sommes pas seuls.
Donc il écoute pas, enfin il écoute très peu les autres en tout cas, et il tient peu compte de l'aspect horrifique de la bête, parce qu'elle fait très vite très très peur aux autres. Donc je vais vous lire un petit extrait de Campbell, hein, qui fait parler le personnage du physicien, qui lui en fait fait ressortir surtout l'intention en tout cas qu'il lit dans la bête. Il lui dit qu'elle est furieuse. Elle était furieuse au moment où elle a gelé, et le mot est faible. Mieux vaudrait dire folle de rage et de haine. Ce serait sans doute encore au-dessous de la vérité. Ses trois yeux rouges et ses poils bleus qui se tordent comme des vers de vase. Aucune créature sur Terre n'a jamais connu la quintessence de colère dévastatrice qui s'est exprimée sur les traits de cet être il y a 20 millions d'années. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle de Campbell. Dans le préquel de 2011, la forme, c'est... moi, ça me fait penser un petit peu à la métamorphose de Kafka. On est dans une forme d'insecte, en fait, espèce de...
gros scarabée.
Ouais, de scarabée géant. Voilà, qui reste en tout cas dans l'imaginaire une forme de vie pas très enviable d'un point de vue humain. Voilà, et un peu... enfin, qui fait peur, hein, je pense également. Mais il n'y a pas cette notion de haine. Et évidemment, après, mais dans le film de Carpenter, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas de forme. Enfin,
elle arrive sous la forme d'un chien. Quelque chose de, voilà. De tout à fait anodin, malgré la situation. Et puis, rapidement, il se rend compte que, finalement, le chien n'est pas vraiment un chien.
Voilà. Et puis, bon, mais évidemment, du coup, tout ça va installer un climat de paranoïa intense entre les personnages, hein. Puisque très vite, ça va, enfin en tout cas dans le film de Carpenter, on va assister à une espèce de partie de loup-garou géant.
Bah, qu'on se rend compte que finalement la bête imite des formes de vie et que chacun peut éventuellement être la bête sans qu'on le sache vraiment ou sans que la personne même le sache. Et donc là, pour moi, ça fait vraiment le huis clos qu'on voit dans les parties de loup-garou, à savoir qui est qui et quand on va pouvoir identifier et comment identifier la personne qui va vouloir du mal au village. On est un peu dans le même contexte. Hein.
Oui, et puis là, le huis clos est aussi renforcé, je pense, par l'univers polaire. C'est-à-dire qu'on est très loin de toute forme d'habitation.
De communication.
En général, il y a une petite tempête qui se glisse là-dessus. Et pour finir, on arrive d'une manière ou d'une autre à ne plus avoir de transmission en fait, avec les autres. Donc on est dans l'huis clos avec tout ce qu'il a de plus anxiogène.
Donc ça, on voit bien dans les films de Carpenter, de la version
2011. 51 aussi.
Par contre, 51, non, parce que 51, ouais. Justement, la bête est, a une forme humaine, humanoïde. Et quand il trouve un morceau de la bête et qu'il commence à essayer d'analyser, savoir ce qui se passe, c'est plutôt végétal. Avec. Donc, c'est une créature qui a besoin de sang pour pouvoir se multiplier. Et donc, le scientifique va. Utiliser des bouts du bras qui a été retrouvé après que la bête ait lutté contre les chiens pour ajouter du sang dessus et puis former ces espèces de fleurs qui sont en fait des mini bêtes, des mini choses
en fait.
Qui vont être générées, qui vont être multipliées. Donc on voit ici, en fait, normalement ça bouge et puis il y a un des scientifiques qui arrive avec un stéthoscope et qui entend un enfant crier dedans. Donc là, c'est profondément différent de la version de la nouvelle. Et des deux films qui ont suivi.
Donc, bon, après, celui qui nous offre un point de vue finalement quand même assez différent, c'est Peter Watts, hein, qui, lui, donc, essaye de donner un point de vue de la chose. Et... alors, en fait, très bizarrement, il essaye de donner un point de vue assez altruiste. C'est-à-dire que finalement, la chose, ce qu'elle voudrait, c'est améliorer l'humain pour lui faciliter la vie et le rendre plus adapté à son milieu. Parce que pour lui, le fait de sortir couvert avec plein de manteaux pour supporter le froid polaire, c'est un signe d'inadaptation. Sauf que il se retrouve face à une conception de la vie qui est sans doute très éloignée de la sienne. Et il appelle les humains des peaux mortes. C'est-à-dire qu'en fait, il fait une différence entre le cerveau, le centre de commandement, ou l'âme, hein, peut-être, d'une certaine manière, et le corps. Et du coup, il ne sait pas comment il sait s'emparer du corps, il sait copier les cellules, et ça, on y reviendra après. Hein, il a une espèce d'intelligence qui se situerait au niveau cellulaire. Alors, je ne sais pas, c'est un peu
bizarre de dire ça. C'est un peu une intelligence coopérative, quoi. Donc, toutes les cellules coopèrent ensemble, mais chacune a son identité.
Et en fait, quand il s'empare des humains, il n'arrive pas à prendre finalement possession de l'âme, hein, du cerveau, de l'âme, hein, on ne sait pas, c'est un peu
c'est
trouble.
Le point, ouais, l'obstacle pour le total contrôle de la personne.
Et face en fait à cette déception, au fait qu'il ne va pas arriver à s'emparer de cet humain comme il a pu le faire par ailleurs, parce qu'il est présenté aussi comme une entité très sage, qui a accumulé énormément de savoir, qui a circulé à travers les âges, etc. Eh bien, la dernière phrase de la nouvelle, je vous la lis, hein, et son seul moyen en tout cas de s'emparer pour lui de la conscience des autres, c'est de le leur imposer par le viol. Et je pense qu'en fait, ce moment du viol, c'est le moment de la révélation aux yeux des autres et de l'univers horrifique que vous vous souvenez sans doute de The Thing, hein, c'est-à-dire quand la bête apparaît, qu'elle révèle être autre chose qu'un humain.
En fait, c'est intéressant parce que donc dans les deux films, Carpenter et le prequel, on voit ces images où les scientifiques arrivent à imager les cellules d'un hôte et puis les cellules de la chose et voient cette espèce d'assimilation de la cellule animale ou terrestre pour la copier. Donc on le voit ici avec Blair qui regarde ça au microscope. Et puis ici, c'est la paléontologue qui va voir ça aussi au microscope après avoir sorti les cellules de l'un des cadavres qui a été infecté par la bête. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on a du mal à savoir, enfin, peut-être un peu plus en prequel, mais si les personnes qui sont infectées le savent. Parce qu'on ne sait pas si la bête se révèle quand il y a un danger, et là, tout d'un coup, ça explose, il y a du tissu partout, et on voit des espèces d'adaptation à une situation de stress par la bête. Et on ne sait pas si avant ça, la personne est consciente de ce qu'elle va faire pour préserver la bête. Et la seule scène où je vois peut-être un effet de la bête, c'est quand le scientifique dans le prequel se fait infecter et va dans le vaisseau pour essayer de se sauver. Il y a aussi Blair qui, dans la nouvelle et dans le film de Carpenter, essaye de construire un appareil pour pouvoir se sauver.
Oui, alors dans la nouvelle, pour moi en tout cas, je pense qu'il y a une forme de conscience. Alors, je ne sais pas comment on dit. Il est dans une espèce d'ambivalence où à la fois il va détruire, pour essayer de protéger l'humanité, tous les moyens de transmission avec le reste du monde. Parce que c'est le premier, et ça c'est le cas dans absolument tous les films, à avoir conscience aussi du potentiel de dangerosité de la bête. Et à la fois, comme il est porteur du virus et qu'il en a peut-être conscience, ou en tout cas qu'il a peut-être tout simplement peur d'être infecté, il va aussi se mettre à l'abri.
Donc ça, c'est Blair, hein, le scientifique, ouais. Surtout dans la nouvelle et dans le film de Carpenter. Je trouve, moi, qu'il y a un angle de vue, justement, sur le scientifique qui est assez intéressant entre les différentes versions du film ou la nouvelle. La version de 51, donc le scientifique travaille beaucoup, fait des expériences pour essayer de comprendre ce qu'est la bête, et puis il essaie même de communiquer avec la bête pour pas qu'elle se fasse tuer par les humains. Finalement, il se mange un coup de manchette et puis on ne le revoit plus. Dans la version de Carpenter, on a un scientifique, donc Blair, qui est très pessimiste, parce qu'il voit de ses analyses qu'au moment où il fait l'analyse, il y a probablement 75% de la base qui est déjà infectée par la bête, du fait de sa possibilité de répliquer les cellules avec lesquelles elles sont, la bête est en contact. Et puis, si jamais il y a une propagation sur la Terre, donc c'était, je ne sais plus, 27 000 heures pour avoir une assimilation complète de toute forme de vie terrestre. Et donc là, il a ce côté pessimiste, mais quelque part altruiste, parce que la première chose qu'il fait, c'est saboter les hélicoptères et les moyens de transport de la base, et puis le système de communication pour être sûr qu'entre eux, ils puissent se débarrasser de la bête. Dans le prequel, je crois que c'est plus proche de la nouvelle, dans le sens où là, le scientifique a déjà un super ego.
C'est la pire figure de biologiste de tout cet univers de The Thing, hein, parce que il est mené vraiment que par son ego. Je suis même pas sûre qu'il y ait vraiment une curiosité derrière, à part la possibilité de rayonnement.
C'est ça. En fait, il y a un peu les deux figures, parce qu'il y a le scientifique qui vient chercher la paléontologue parce qu'elle a une expertise, notamment pour sortir le corps de la glace, et essayer de le préserver. Mais ensuite, lui, il veut garder le contrôle. Couper la communication pour pas que le monde le sache avant qu'il ait pu étudier tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire sa nouvelle et puis avoir
décoché la gloire, le prix Nobel ou quelque
jusqu'à
chose
mettre
ça.
L'équipage, enfin le tout le groupe en danger en allant chercher une biopsie de la bête dans la glace, et au final il va
lui permettre de s'étendre et d'infecter tout le monde. Ouais. Peut-être que maintenant tu vas peut-être pouvoir aborder le point de vue peut-être plus biologique.
J'ai essayé de voir un peu le lien parce que ça me travaillait quand même pas mal. J'ai vu le film depuis tout petit, et puis ce côté de cellule qui va chercher d'autres cellules pour pouvoir les répliquer et puis communiquer avec elles. J'essaie de voir un peu comment la nouvelle pouvait transcender des éléments biologiques ou scientifiques. Sur cet aspect, et il y a trois choses qui me sont venues. La première, c'est en fait donc la bête vous infecte, donc vous avez des cellules qui vont commencer à changer, vous ne le savez pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pour moi, ça fait énormément penser au cancer. Donc le cancer, c'est des cellules du soi. Donc là, en fait, c'est des cellules dans la bête, c'est des cellules du non-soi qui s'accaparent des propriétés du soi pour pas être reconnues. Dans le cancer, on a des cellules du soi qui changent, qui n'ont plus la même fonction originale, mais qui restent du soi et qui, malheureusement, ne vont pas se soumettre à la régulation normale du corps humain. Et c'est ce qui va provoquer des dérèglements et, dans beaucoup de cas, la mort de la personne. Et là, je trouve que c'est un peu cette analogie qu'on retrouve, sauf que quand le non-soi... cette espèce de cancer intérieur se révèle, alors là c'est plus réversible, la personne est complètement transformée, c'est plus la même personne, et ça impacte énormément l'environnement. L'autre chose, c'est le système immunitaire, parce que en fait ça ressemble énormément à ce que font les macrophages quand ils trouvent des corps étrangers dans la circulation. Ils vont essayer de les trouver, interagir avec, s'ils peuvent ils vont les phagocyter pour les dégrader. Et si ce sont des cellules ou ce qu'on appelle des antigènes, ils vont avoir la mémoire de l'antigène pour pouvoir, s'il y a de nouveau un contact dans le temps avec ce même antigène, le détruire plus rapidement. Et donc, c'est cet aspect-là, mais du coup, c'est une espèce de super système immunitaire extraterrestre qui vient remplacer le nôtre et puis ensuite remplacer le reste de l'organisme. Et l'autre chose que j'ai trouvé intéressante, notamment sur des développements récents, donc je travaille dans le domaine des cellules souches, nous ce qu'on utilise, ce qu'on essaie de faire, c'est à partir des cellules de patients, de faire revenir ces cellules à l'état de cellules souches, et ensuite pouvoir les diriger vers différents types cellulaires du corps humain pour comprendre des pathologies ou le développement même cellulaire dans un environnement humain. Et pour ça, donc, on peut les diriger vers des cellules de cœur, de foie et autres. Il y a plusieurs applications à ça, donc soit comprendre le mécanisme de pathologie, soit essayer de trouver des traitements. Donc on a un modèle dans nos boîtes de pétri pour lesquels on peut appliquer des molécules et puis essayer de réverser une maladie, ou pouvoir en générer suffisamment dans des conditions qui sont adaptées à la clinique pour faire de la transplantation. Parce que l'idée, ce serait de pouvoir avoir vos propres cellules qu'on dédifférencie en cellules souches, qu'on redifférencie en cellules, je sais pas, par exemple, cellules souches hématopoïétiques au niveau de la moelle, et puis on enlève les cellules souches hématopoïétiques pour les remplacer par vos propres cellules réparées. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a tout ce qui est lié à le soi et le non-soi. Donc si on transplante des cellules, s'il y a une petite modification, elles peuvent être détectées par votre système immunitaire et donc détruites. Et récemment, il y a eu donc des recherches qui ont permis de modifier les cellules souches, donc ici les cellules souches embryonnaires ou des cellules souches IPS, pour que les molécules impliquées dans l'immunité ne soient pas reconnues par le système hôte. Et donc on génère ce qu'on appelle des cellules hypo-immunogéniques. Et donc là, ça ouvre un grand champ d'investigation et d'application clinique pour la transplantation en utilisant des cellules souches qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc ça, il y a maintenant des start-up qui sont montées à Boston, notamment pour utiliser ce type de procédé et commencer à pousser la thérapie cellulaire sur différents plans pathologiques. La dernière chose que je voulais évoquer, c'était, donc vous avez peut-être entendu parler de cette stratégie pour viser les cellules cancéreuses, qui sont les CAR T-cells. En fait, c'est des cellules, vos propres cellules immunitaires qu'on va sortir pour pouvoir modifier génétiquement et vous ramener dans votre organisme et qui vont développer des espèces des récepteurs, mais des protéines qui vont reconnaître spécifiquement les cellules cancéreuses. Et donc là, on a une adaptivité artificielle de notre système immunitaire pour que nous-mêmes on puisse se débarrasser des cellules cancéreuses et guérir simplement du cancer. Les approches ont l'air très très efficaces et donc il y a énormément de stratégies maintenant qui utilisent ce moyen pour indirectement se débarrasser de cellules cancéreuses.
Alors moi j'ai essayé de rebondir sur disons, on va dire un petit peu l'idée de l'autre, puisque je pense que c'est quand même la question qui se pose dans The Thing, puis que c'est un petit peu la question de la science-fiction de manière générale, hein, c'est-à-dire comment aborder l'autre quand finalement on n'a strictement rien en commun avec lui. Donc l'autre jour, j'entendais Jeanne Desbats qui disait que l'autre dans la science-fiction, c'est toujours notre ennemi, avant de finalement se rendre compte que c'est notre ami. Alors pour The Thing, ça ne marche pas. Hein.
Bah ça se finit. Voilà. On ne sait pas trop comment ça finit, hein, puisque ça se finit généralement. Il y a plusieurs fins. Dans le Carpenter et puis le prequel. Donc le prequel, on sait comment il se finit. Il se finit avec le chien qui va trouver la base américaine.
Dans le et film, la scientifique américaine qui s'en perdu, sort et
qui se retrouve un peu esselée.
Qui va vers la base russe.
Tout ce que j'avais lu, voilà. Initialement, l'auteur avait prévu que la scientifique pète un câble et part dans la neige toute seule, oui. En parlant toute seule, et finalement finit par mourir de froid.
Après, il a été soumis à des canons hollywoodiens qui, je pense, font que la scientifique s'est bien sûr sauvée, a réussi, a été très gentille.
Dans le film de Carpenter, on se retrouve avec deux personnages. Et là, on n'a aucune idée de savoir si l'un est infecté ou l'autre est infecté. Il y a des signes qui... Enfin,
il y a plein de théories hein, sur la fin du film de Carpenter, un peu délirante à mon avis, avec...
Donc il y a deux personnages, McGrady voilà. Et Childs, qui se tirent un peu la corde pendant tout le film, et au final, il ne reste plus que eux deux. Et à la fin...
Alors il y a plein d'hypothèses, donc de McGrady qui lui ferait boire de l'essence, mais bon, enfin, je ne crois pas du tout qu'il va boire de l'essence, parce qu'il est sur le point de le boire lui-même, le produit, donc voilà. Sur Childs qui ne ferait pas de buée, donc qui n'est peut-être plus un humain. Enfin bon, voilà, j'ai lu plein de choses un petit peu délirantes sur la fin. Moi je pense que la fin, elle veut juste dire que le brouillage est total et que les gens... ne sont plus du tout capables de discerner quoi que ce soit finalement. Enfin, pour moi, The Thing, c'est vraiment ça, c'est le vacillement des repères, c'est le fait de ne plus être dans un monde qui serait déchiffrable puisqu'on ne sait plus qui est qui et quand on le sait, ben, c'est vraiment trop tard. Voilà. Et c'est aussi une manière de voir l'autre qui serait assimilé dans soi-même. Enfin, voilà, peut-être à la manière d'un cancer. Un cancer très agressif sur la fin.
Est-ce que vous avez des questions à ce stade de de la discussion, des remarques.
Mais il n'y a pas de micro.
Il n'y a pas de micro.
Il n'y a pas de micro. Bon, après, là, je pense que la pièce est assez...
Assez petite pour...
Ah oui.
Ah oui.
Non, pas de questions pour l'instant.
Du coup, la nouvelle de Watts, elle donnerait raison à ce que vous disiez par rapport au fait que votre famille, ça devient notre ami à la fin. Ce qui est, c'est-à-dire que cette pièce, c'est le second nom de tout l'univers où il essaye de créer une espèce de ciel un peu tordu.
Ouais, il est. Alors, je suis d'accord, il essaye jusqu'à ce qu'on arrive quand même sur la fin où il finit par dire. Ces pauvres choses n'accueilleront jamais le salut à bras ouverts, donc il veut faire le bien malgré eux. Je vais donc devoir le leur imposer par le viol. Donc, c'est voilà, c'est exactement ça. Donc ça pose quand même, ouais, dans ce jeu. Mais effectivement, lui, il a essayé de retrouver ce côté qu'on retrouve dans la SF, de l'ennemi qui devient finalement notre ami et qu'on ne connaît, c'est juste pas. Mais il y renonce, à mon avis, à la fin de la nouvelle.
Après, il y a ce côté justement où chaque entité cellulaire a sa propre conscience et il y a une espèce de développement de conscience collective à travers la bête et la bête ne comprend pas. On pourrait penser qu'elle ne comprend pas pourquoi l'humain veut garder son individualité en termes d'organisme, alors qu'il y a tellement de choses différentes qui pourraient, en communiquant, être plus optimales, en fait.
Oui, voilà. C'est effectivement ça. C'est ce qui ressort de la nouvelle de Watt. C'est que, qu'il y a vraiment une richesse, justement, à ce mélange cellulaire ou à cette extension cellulaire que l'humain ne saisit pas du tout et que donc, ben, on va lui faire comprendre... pour son bien.
Donc ça, c'est intéressant parce que c'est... Moi, j'ai du mal, par exemple, à imaginer l'espèce de cellule intelligente, mais oui. Pourquoi pas, après tout, dans une évolution ultérieure, est-ce que ça va pas être... Parce qu'on vient aussi d'être unicellulaires qui, finalement, sont mis ensemble pour avoir quelque chose de plus adapté à l'environnement, mais est-ce que ensuite l'évolution va pas aller dans l'autre sens?
Oui, puis dans la nouvelle de Watts, il y a l'idée que... Alors, justement, si la bête est aussi furieuse au début, ou en tout cas dans ce que peut en dire Campbell, c'est parce que à l'origine c'était un espèce d'individu suprême, peut-être une entité de l'ordre de Dieu, je ne sais pas trop, qui englobait vraiment énormément de connaissances, qui était un espèce de super organisme super intelligent, hein, d'une certaine manière, et qui avait su s'adapter à autre chose. Sauf que la congélation pendant 20 millions d'années, effectivement, l'a frustré quelque peu et lui a fait perdre beaucoup de ses connaissances. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'il dit aussi dans la nouvelle de Watts, qu'avant, il savait et que maintenant, il n'est plus que l'ombre de lui-même, d'une certaine manière.
Et ce qu'on voit aussi dans la nouvelle de Watts, c'est le fait que la chose est consciente sur les différents corps. Donc elle sait qu'elle est Blair, elle sait qu'elle est le chien, elle sait qu'elle est... Donc malgré le fait que le tout soit séparé, il y a quand même une conscience collective qui perdure, on ne sait pas comment.
Oui, oui, c'est vrai, elle forme un tout au-delà du morcellement de divers organismes. Ouais, ça c'est tout à fait vrai. D'autres interventions?
Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Oui, allez-y.
Elle est traduite, oui. Alors attendez, je crois que je dois avoir la référence exacte. Les trois souhaits, et elle a été publiée dans l'anthologie numéro 10 des Utopiales. Voilà. Oui, oui. Moi, je l'ai lu dans ça. Et je crois que ça s'appelle Les Trois Souhaits. Pardon ? Ah oui, exact, exact. Exact. Et j'ai vu sur, mais ça, je l'ai, ça moi je ne l'ai pas, mais j'ai vu sur Internet qu'en tout cas, elle a été aussi publiée aux Utopiales. Donc sans doute il y a 10 ans. Ouais, voilà.
Vous avez d'autres questions, des longues discussions, ouais.
Merci.
Non, là, ce que je peux voir, c'est il y avait effectivement, je crois qu'il y a un champignon qui peut parasiter la fourmi pour prendre contrôle un peu du système
nerveux.
Ouais. Et en fait, on parle de fourmis zombies qui sont complètement à la merci de l'organisme qui essaie de subvenir à ce besoin le plus primaire. Ouais. Et du coup, ce vert, en projetant le rat dans les griffes de chat, c'est aussi pour trouver un autre hôte ou
Ah oui, d'accord. Au chat.
Dans son développement, il doit passer d'une espèce à l'autre.
Ouais.
Donc le ver aurait appris à maîtriser le système nerveux du rat pour amener à un comportement suicidaire. Et donc ça lui permettrait comme ça de survivre.
De continuer son
et
cycle.
Encore une fois, je prends des pincettes parce que c'est des souvenirs de quelque chose il y a quelques années, donc je connais les effets de déformation du rat.
Ben après, moi, ce que je trouve intéressant dans The Thing, c'est que. Enfin, je ne sais pas s'il y a un effet de zombification des personnages, en fait. C'est justement là que réside toute l'ambiguïté de la bête. Parce que si on prend Blair, qui, dans la plupart des films, devient le super boss de la fin, le super boss, ça fait un peu jeu vidéo, mais enfin, en tout cas, le gros monstre à détruire à la fin. On ne sait pas, en tout cas dans ses actes, il n'y a rien, parce qu'il y a ça aussi, enfin on n'en a pas du tout parlé d'ailleurs, mais il y a tout un jeu aussi dans, puisqu'on est dans une partie de loup-garou, essayons de deviner qui est infecté et qui ne l'est pas. Donc il y a toute une réflexion sur, alors il y a l'histoire du sang, il y a l'histoire des plombages, dans le film de 2011, hein, puisqu'ils se rendent compte très vite que la bête est capable de répliquer que du vivant. Que de l'organique.
Il y a un des personnages pour lequel, quand il tue la première version de la bête, donc l'espèce de scarabée, donc il y a un personnage qui est complètement engouffré déjà dans la bête, qui essaie de répliquer, et il retrouve une broche qui était initialement dans le bras de la victime, en dehors de la victime. Et donc c'est ça qui commence à. Enfin, c'est l'indice qui leur fait penser que la bête pourrait être en train de répliquer les formes de vie.
Et du coup, la paléontologue va trouver ce moyen de savoir qui est humain et qui ne l'est plus en leur faisant ouvrir la bouche et en regardant leur plombage.
Un test sanguin qui veut être mis en place, donc il reprend un peu ce qui a été fait dans le film de Carpenter. Mais donc là, je pense que c'est plutôt scénaristique pour essayer de trouver un autre moyen. Le labo
est saboté. C'est aussi dans la nouvelle de Campbell, le sang.
Le labo est saboté, il n'y a plus accès au sang. Oui. Et donc, le seul moyen. Au moins d'exclure les personnes qui ne sont pas infectées, c'est de vérifier s'il y a toujours les plombages. Parce que la paléontologue retrouve des plombages dans la salle
dans
de
la
bain.
Douche, plein
sang. Et donc, dans la version de Carpenter, et là, j'ai plus par rapport à la nouvelle, je ne sais pas si c'est le même test qui est fait.
Oui, si
donc,
c'est
le même. En fait, c'est MacReady quand. Donc, il y a une scène assez mythique quand un des personnages. Fait une crise cardiaque Et en fait, oui. Ils essaient de le ranimer, et puis bah, il se trouve que le personnage est une bête. Alors, elle est où? Là. Voilà. Et donc, à partir de là, en fait, ça commence à partir en cacahuète. La bête essaie de se sauver comme elle peut, et puis se transforme dans tous les sens. Et une partie du corps, donc la tête, tombe. Et alors que le corps se fait brûler parce que les gars de la base essaient de s'en débarrasser, la tête essaie de survivre en faisant pousser des pattes d'araignée sur le côté, deux yeux, et puis commence à partir. Et là, Magrédi se retourne et puis brûle le truc et se rend compte qu'en fait, chaque partie de la personne affectée est indépendante et donc essaie de survivre. Et d'où vient l'idée du test de récupérer du sang de chacun. Et en chauffant un morceau de fer, l'appliquer sur le sang et voir si les cellules de la bête qui composent le sang essayent de s'en éloigner pour par survie. Et donc c'est là où un autre des protagonistes est révélé.
Mais avant ça, ils font toutes sortes de tests sanguins qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir un sang vierge au départ. Il y a quelque chose comme ça, non?
Pas dans les films, je pense.
D'accord. Alors, dans la nouvelle, donc il y a toute cette ambiguïté sur mais si le sang qu'on a au départ n'était pas vierge, alors est-ce que le test peut marcher? Et puis finalement, ils font la même chose, le filament. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous aimeriez évoquer par rapport aux films, aux nouvelles.
Oui.
Moi, j'ai pas lu les nouvelles, j'ai vu beaucoup et souvent le film de Carpenter,
ouais.
Et une fois ou deux le préquel. Le film, il a presque 40 ans, le film de Carpenter, et
ouais.
Il marche encore.
Ouais,
parce qu'il y a très peu d'influence de la technologie dedans. Aujourd'hui, on pourrait refaire le même film, où il suffirait que la bête pète tous les téléphones portables, et puis il se retrouverait au même point qu'en 82. À jouer au loup-garou. Et le film, il marche encore parce que il éveille des questions et des peurs que certains peuvent avoir. C'est qu'est-ce qui peut nous remplacer malgré nous. Par exemple, pour tous les gens qui sont sur les délires de grands remplacements, etc., c'est un film qui parle aussi de ça, d'une certaine façon.
Oui, ça peut imaginer ça, et en fait, il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué vraiment par rapport à l'auteur.
Je sais pas si tu peux en parler. De Campbell.
Ouais.
Oui.
L'auteur de la nouvelle.
Oui, l'auteur de la nouvelle qui était quand même, même si on peut lui rendre hommage pour son édition de science-fiction, était quand même un suprémaciste blanc, anti-esclavagiste et raciste au plus haut point.
Hein?
Esclavagiste. Ah, j'ai dit anti-esclavagiste, ouais. Ça c'est pas, j'ai parlé malgré moi. Donc, esclavagiste au plus haut point, si bien qu'il y a eu un prix Campbell jusqu'à cette année, et que ce prix n'existe plus. Il a été remplacé par le nom, justement, de sa revue, A Standing. Et du coup, alors après, c'est pas ce qui ressort dans la nouvelle, mais quand on connaît le bonhomme, on pourrait faire cette lecture, en tout cas, moi, je trouve, de son œuvre, hein, c'est-à-dire que finalement, on peut lire la peur de se voir prendre le pouvoir, de ne plus être pur, de... c'est certain. Il y a la peur du remplacement, il y a la peur d'être mis à l'écart, il y a la peur de ne plus contrôler le monde.
Voilà. Puis au final, en fait, on a peur de l'autre qui nous ressemble. Et c'est ça qui est vraiment dans huis clos, qui... C'est là, personne ne fait confiance à personne parce qu'on ne sait pas qui est qui et quels sont les desseins de chacun pour pouvoir sortir de cette situation délicate. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le film de Carpenter, c'est surtout donc au niveau des effets spéciaux qui restent des effets spéciaux non numériques.
Ça reste super bien.
Ouais, ouais. Et malgré le temps, ça reste toujours très organique, très ça fait peur quoi. Les effets spéciaux du prequel sont sympas, mais ça reste quand même moins crédible, je trouve, que ce qu'on voit dans les effets spéciaux non numériques.
Oui, moi, c'est vrai que je préfère... Enfin, voilà, j'ai aussi clairement une préférence pour le film de Carpenter, parce que je trouve qu'il est déjà bien moins manichéen que le prequel. Hein, C'est-à-dire que...
C'est quand même deux Américains qui restent à la fin pour...
Oui, voilà, pour donc c'est pour sauver le monde, alors que le méchant norvégien se transforme en abominable Sing, bon, enfin bref. Alors que justement, dans le film de Carpenter, je trouve que ça remet tout le monde à égalité, en fait, et tout le monde est au même niveau, et justement, il n'y a plus de lecture du monde, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus justement ce qui reste dans le préquel et qui, à mon avis, fait que du coup, il est moins intéressant.
J'aimerais quand même rendre hommage au préquel parce que je trouve que le réalisateur a fait un super boulot en faisant le lien avec la version de Carpenter. Donc, dans le film de Carpenter, quand les Norvégiens arrivent et puis tirent sur le chien et finissent par tirer sur les gens, les Américains se demandent mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ils décident d'aller voir le site norvégien pour leur demander des comptes. Et ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne, ça a brûlé dans tous les sens, il y a une personne qui s'est suicidée. Et puis, on voit plein d'éléments, un trou dans un mur, une hache plantée dans un mur. Et en fait, tout ça a été repris dans le prequel pour essayer de vraiment adapter les scènes pour que les stigmates de la base se retrouvent ensuite dans le film de Carpenter qui a été tourné 30 ans avant. Et on voit même donc, la bête ici, celle qui a deux, la créature qui a deux visages, on voit sa genèse pendant le film avec un des protagonistes qui va fusionner avec un autre gars qui est par terre et finalement qui va se faire brûler dehors. Et ça, c'est le cadavre que les Américains dans le film de Carpenter récupèrent pour aller disséquer sur leur base américaine. Et je trouvais vraiment que tous ces détails donnaient un très chouette lien entre les deux films.
Oui, ça c'est vrai. Moi, après, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez, monsieur, sur effectivement le film de Carpenter qui fonctionne toujours très très bien. Et rapprocher aussi le film de 51 de justement de cette vision du monde plus ancienne qui est héritée aussi sans doute de la guerre froide, etc., qu'on retrouve dans le film de 51 avec qui se finit vraiment sur la peur de l'invasion par les extraterrestres, puisque la dernière parole c'est regardez le ciel, il y en a d'autres qui pourraient venir. Et en plus, justement, dans le film de 51, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'infection. Personne, à part le chien. Bon, mais bon, c'est pas très grave.
Qui peut vraiment affecter
les humains. Oui, voilà. Mais personne n'est infecté. C'est-à-dire, chacun reste à sa place et la lisibilité du monde reste, du coup, parfaite. Donc, c'est une vision quand même bien, bien différente. Enfin, voilà, il y a un côté historique aussi, hein, quand on se met à regarder les films. Comme ça, dans leur donc, époque, texte, qui est bien, bien, bien marqué.
Et ce qui est assez marrant dans le film de 51, c'est qu'il y a un journaliste qui, lui, n'est pas ni dans la nouvelle, ni dans les films de Carpenter ou dans le prequel. Et donc, ce journaliste fait cet appel à la fin, tout le monde est vivant. Il y a un contact avec la civilisation pour leur dire ce qui s'est passé et de regarder le ciel. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres vaisseaux qui arrivent. Et là, ça fait énormément écho à ce qui s'est passé en 1938 avec la guerre des mondes, qui avait eu une adaptation radiophonique. Donc la nouvelle est de 1998. Il y a eu une adaptation.
La diffusion est 1938, la même année en fait que justement la nouvelle de Campbell.
Et là, il y a cet écho à tout ce que la diffusion radiophonique avait créé comme psychose aux États-Unis avec l'arrivée d'extraterrestres qui commençaient à envahir le pays.
Oui, là c'était un peu avant la guerre.
10 ans avant. Ouais. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ouais.
C'est deux questions en une, on va dire. Plus on discute de The Thing et plus on voit le lien avec les montagnes hallucinées de Howard Philip Lovecraft, je pense que c'est assez évident, enfin, le parallèle. Et est-ce qu'on sait s'il y a eu une appropriation du récit? Est-ce que ça a servi de source? Et deuxième question, est-ce qu'il y a d'autres films ou d'autres ouvrages que vous ne connaîtrez pas qui pourraient reprendre un peu les mêmes codes en s'en inspirant? Parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire.
Ouais. Alors, par rapport à Lovecraft, moi, j'ai rien vu passer là-dessus sur une analyse un peu en duo pour voir à quel point il y a une interprétation ou une inspiration de la nouvelle de Lovecraft sur la genèse de The Thing. Donc, je ne sais pas, mais je pense que ce serait intéressant de la faire. Juste,
ouais, après, moi, pareil, j'ai absolument j'ai rien lu sur ça, mais ça ne veut pas dire que c'est...
Voilà. Deuxième question, enfin, moi, je ne vois pas, je ne sais pas si quelqu'un... Je pense que le truc, c'était tellement original aussi qu'après, refaire la même chose, ça devient... c'est difficile de ne pas tomber dans le travers de la répétition du plagiat. Mais dans le même style, pour, là, de tête, comme ça, j'ai rien qui me vient.
Moi, j'ai vu des rapprochements avec Alien, mais pour moi, Alien, ça reste assez différent dans le sens où...
plus d'un parasite qui...
Oui, voilà, on est plus dans quelque chose de parasitaire et donc de plus... c'est à moi ce caractère, enfin c'est très effrayant Alien, c'est pas ce que je veux dire, mais il n'y a pas le côté de l'autre en soi, enfin beaucoup moins en tout cas, je trouve. Un peu, oui, bon.
Ouais. Oui.
Ah oui, complètement, oui. 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 À l'identique. Ouais, de tout le monde.
Donc là, du coup, ça fait un lien entre le film de 51 et puis les films plus récents, dans le sens où dans l'invasion des profanateurs, c'est quelque chose de plus végétal qui vient prendre la place des gens.
Une espèce de fleur enfermée dans une espèce de chrysalide fœtus.
Non, c'est vrai. C'est quoi le... Je crois que j'ai vu, mais le pitch. Peut-être vous voulez le micro pour...
Ouais, ça on vous entendra.
Oui, je disais, il y a donc The Faculty de Robert Rodriguez avec Elijah Wood, avec Josh Hartnett. De mémoire, hein, c'est pareil, c'est une extraterrestre et qui a des petits qui prennent une forme de fer, je crois, si ma mémoire est bonne. Pardon ? Ah oui, il pousse dans l'eau et effectivement, ça change complètement la personnalité des gens. Il y a le même principe que dans The Thing où c'est une drogue qui permet de démasquer qui est infecté, qui n'est pas infecté. Ouais. Mais jusqu'à ce qu'on prenne cette drogue, on ne sait pas. Donc, si, ce fait que Faculty ressemble un peu à The Thing.
D'accord, ouais, ah, d'accord. Bon, très bien. Je n'avais pas la référence.
Ouais, moi non plus.
Il y a un antidote.
C'est, ouais.
Là, il n'y en a pas.
Celui qui sauve tout le monde, c'est le dealer du lycée.
Pas mal.
Il en fait une place de méthamphétamine et puis tout le monde est sauvé. Quoi.
C'est une belle ode à la drogue.
Moi, j'en viens un petit peu sur les parallèles aux différents films. C'était quand je vois les images là, j'arrête pas de penser à la mouche de Cronenberg.
Oui.
J'ai l'impression qu'il y a une lecture aussi sur un petit peu les travers de la peur humaine, avec cette modification du corps un petit peu involontaire qui arrive petit à petit.
Oui, mais alors je suis d'accord sur le côté dans la mouche, c'est une fusion. Donc déjà c'est un petit peu différent parce que très vite il a plus l'apparence d'un homme quand même et ça trompe personne. Vous voyez ce que je veux dire?
Il en est conscient surtout.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il y a ce côté.
Et puis il n'y a pas le côté invasion et contamination par les autres parce que non, ça voilà.
C'est plutôt très personnel.
Oui.
Mais il y a ce côté par contre où on sait, c'est dedans. On ne sait pas ce qui se passe jusqu'à ce que ça commence à se manifester petit bout par petit bout, avec les dents qui tombent, le physique qui commence à changer, les doigts, le fait de s'accrocher. Mais il n'y a pas cette... quelque part, lui-même va se perdre dans la mouche qui prend le contrôle total de la personnalité. Donc il y a un lien, mais il n'y a plus le côté contamination, peur, et surtout pas le huis clos qu'on retrouve dans le film avec mais qui et qui, quoi.
Et moi, je trouve que dans la mouche, il n'y a pas de remplacement. Il n'est pas remplacé par la mouche, c'est une fusion.
Oui, ouais.
Il est la mouche et il est l'homme, encore un petit peu malgré tout. Alors que là, on est un homme, enfin en tout cas on croit l'être, jusqu'à ce qu'on explose, qu'on se transforme et qu'on se révèle être finalement tout à fait autre chose que ce que l'on croyait.
Ouais, une dernière question là-bas.
Ben, merci pour la conférence déjà.
moi, c'était juste deux petites notes vraiment rapides sur les films. Déjà d'une au niveau de la fin dans Carpenter. Enfin, Carpenter lui-même a déclaré que c'était fait pour qu'il n'y ait pas de...
Tout à fait, tout à fait.
Il y a des moments dans le film où on peut savoir qui est la chose. Il y a un petit truc avec les yeux, en fait, il n'y a pas
ouais,
de
voix
dans
ouais.
les yeux. Et à la fin, il a fait exprès qu'il n'y ait pas ce truc-là. Donc, on ne sait pas.
Oui, moi, c'est vraiment comme ça que je disais la fin et je suis tout à fait d'accord avec.
Et le deuxième petit truc aussi, c'est le remake, enfin le prequel qui est normalement un remake. À la base, il y avait une version qui a été faite avec des effets pratiques, des vrais effets.
Ah oui, oui.
Et il existe des images en ligne et des vidéos.
Ah
et
oui,
tout,
d'accord.
Et, les producteurs ont laissé tomber à la fin. Ils ont dit non, c'est pas assez réaliste, donc on va refaire tout en CG.
D'accord.
Okay.
Et les effets sont, sont quand même plus intéressants, on va voir. Donc c'est pas assez.
D'accord, en tout cas merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. On va vous souhaiter un bon festival et puis surtout pour la sortie, si vous pouvez sortir juste par derrière, comme ça les gens peuvent rentrer par le côté et tout le monde est obligé de sortir pour pouvoir renouveler la pièce. Merci à vous.